Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes avec Jacques Merle. Bonjour.
Bonjour.
Jacques Merle, tu es là pour la compagnie La Musérante.
Oui, c'est une compagnie professionnelle avec des artistes professionnels, mais on est une association. Ouais.
Vous êtes ici pour nous parler du Voyage au cœur de l'homme, un festival qui est la combientième émission ?
C'est la 9e là cette année, depuis 2009. Depuis 2009, on avait sauté 2013, donc on est qu'à la 9e, mais ça fait 9 ans. Ouais.
Et donc, événement qui va se dérouler sur plusieurs dates, par une première tranche du 21 au 30 mars, et ensuite trois dates, le 7, 14 et 21 avril 2018. Et donc, ça se passera principalement entre plusieurs villes, hein, Livron, Chabriant, Mirmande, et puis Aoust.
Oui, alors en fait, les trois samedis d'avril, on est donc à Livron, Chabriant et Mirmande, les 7, 14 et 21. Et puis au mois de mars, on est le 30 mars à la médiathèque de Oust pour une lecture de La fin de Satan de Victor Hugo. Et on sera juste avant les 21 et 22 à Cruas en Ardèche et à Chabeuil.
Cette année, une édition qui revisite les grands mythes.
Oui.
Alors, quels sont ces grands mythes ?
Ce sont des grands mythes du théâtre, de la littérature, revisités par des auteurs qui se sont emparés des personnages d'origine et qui en ont fait, à partir de leur histoire, ils en ont fait une histoire et plus contemporaine avec des échos avec nos sociétés. Et puis ce sont aussi, on est un petit peu sorti des mythes du théâtre et de la littérature avec une proposition sur Marilyn Monroe par exemple, qui est une adaptation du texte Blonde de Joyce Carol Oates, qui est une auteure américaine, et qui est un petit peu la part un petit peu plus sombre de Marilyn Monroe, un petit peu loin des paillettes hollywoodiennes. Et c'est un très très beau texte, un très bel auteur, très beau texte. Voilà, mais sinon on est plutôt sur des mythes. Alors La fin de Satan, ben voilà, on est sur la chute de Satan dans l'abîme, chassé de l'Éden par Dieu et qui adresse une supplique pour ne pas être le mal auquel on veut le destiner. Donc là aussi, un mythe. Alors pour certains, ça n'est pas un mythe, mais voilà, ce grand roman qu'est la Bible.
Et puis, donc ça c'est en amont du festival, hein, comme vous l'indiquez sur le programme. Il y aura aussi à suivre Lucie, la femme verticale.
Oui, d'André Chédid.
Alors, tous ces liens entre eux, quels sont-ils ?
Alors, les liens, nous on travaille toujours à partir de textes, d'auteurs, d'écritures qui nous touchent et avec lesquelles on a envie de dire des choses, des écritures qu'on a envie de défendre, de faire découvrir. Donc on lit beaucoup autour du thème qu'on a envie de développer. On a choisi ce thème-là parce que ce sont des mythes fondateurs de notre culture aussi et que cette manière de les revisiter, que ce soit par des auteurs ou par des artistes qui s'en sont emparés, qui ont fait des performances ou des propositions artistiques dessus. Voilà, je trouvais ça intéressant de remettre au goût du jour ces mythes et de les dépoussiérer un petit peu de leur aura classique, avec les souvenirs qu'on peut en avoir de l'école, du lycée, qui ne sont pas toujours les meilleurs souvenirs qu'on en garde. Et donc voilà, donc c'était pour ça qu'on a choisi ce thème-là. Après, les liens entre eux, on balaie justement Satan, Dieu. On part après sur des mythes plus antique comme Médée, on a un travail sur Médée, on est allé chez Shakespeare avec Hamlet, chez Corneille avec Horace, et puis effectivement Lucie, cet ancêtre voilà, notre ancêtre. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près. Voilà, il y a Marilyn, voilà, on essaie de toucher un petit peu tous ces mythes qui ont fait notre culture.
Donc vous êtes parti d'écrits, hein, principalement. Par exemple, en utilisant des extraits de Blonde, ou comment vous avez sélectionné les parties que vous proposez dans ce spectacle Marilyn Fragment?
Ça a été un gros, gros travail parce que le texte Blonde, justement, de Joyce Carol Oates, c'est un roman très, très épais. Il y a quelques 1000 pages presque. Donc il s'agit de sélectionner les passages qui nous paraissent intéressants, importants, qui sont des facettes que nous, on a aussi envie de montrer, de défendre, qui ont du sens pour nous. Et puis on a collé ça avec des fragments d'écrits de Marilyn Monroe, parce que Marilyn a écrit voilà, des fragments de textes, des pensées. Donc on a mêlé un petit peu cette biographie romancée de cette auteure américaine et puis les propres écrits de Marilyn. Avec une petite surprise, on va faire ça dans un écrin un petit peu type banquet avec le public. On va sortir un peu toute l'armada de l'esthétique... de l'esthétique un peu classieuse des restaurants gastronomiques ou voilà ce genre de choses pour voilà avoir cet écrin lumineux pour y inscrire justement cette facette plus obscure de Marilyn que dévoile l'auteur.
Alors ce spectacle donc de Marilyn sera proposé à la médiathèque de Cruas, hein?
Oui, c'est précise. Oui, tout à fait.
Donc mercredi 21 mars à partir de 18h30.
Ouais, c'est à 18h30, ça dure environ 1h30.
Est-ce qu'il y a réservation?
Non, c'est pas utile parce que sur ces rendez-vous-là en médiathèque, il y a la place nécessaire, on n'est pas sur des jauges particulièrement limitées. Donc on peut toujours appeler pour réserver, hein, y a un numéro pour réserver, mais ça n'est pas indispensable, on peut venir comme ça au dernier moment, c'est pas tellement un problème.
Et pour finir avec Marilyn, est-ce qu'il lui est dû une reconnaissance qui n'est pas encore effective aujourd'hui, particulièrement suite à ses écrits, hein, qui ont été publiés il y a quelques années, et qui ont montré une autre femme que celle que tout le monde connaissait?
Oui, parce que je pense, et ça tend à le prouver justement, que Marilyn n'est pas seulement l'écervelée qu'on voulait nous montrer, cette très belle femme... qu'on a cantonné à des rôles un peu potiches dans les films et qui n'a jamais été vraiment considérée comme une actrice. C'était une icône hollywoodienne, mais c'était sa beauté qui faisait, et son aura, son charisme, qui fait qu'elle a pris une importance dans le paysage cinématographique de l'époque. Mais je ne crois pas qu'on ait vraiment apprécié, même ses collègues acteurs, je pense pas qu'ils avaient un regard très bienveillant sur l'actrice Marilyn Monroe. Et justement, ces extraits de textes qu'elle a écrits et puis cette facette qu'a choisi de traiter l'auteur montre une Marilyn plus intérieure, plus intellectuelle, plus intelligente, entre guillemets, même si l'intelligence, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais oui, c'est intéressant à ce point de vue. Et je pense qu'une reconnaissance... je crois qu'il y a encore cette image, oui, de la Marilyn. Voilà, cette femme sublime, mais qui n'est que ça, finalement.
Et puis... nous allons vers la fin de Satan, qui lui sera présenté à Oust, hein, plus proche de nous, le 30 mars, oui. Vendredi 30 mars. Oui. Toujours à 18h, en fin d'après-midi, hein, vous préparez ces spectacles pour ces fins d'après-midi. Pourquoi
c'est un choix des médiathèques, parce qu'elles ont l'habitude de faire leur rendez-vous culturel à ce moment-là. Leur public a l'habitude de venir à ces heures-là, donc... Donc voilà, c'est simplement ça.
Donc on va revenir sur La fin de Satan de Victor Hugo. Oui. Ça traite donc de Dieu, de Satan. Oui. Aujourd'hui, à notre époque, quel intérêt peut-on trouver dans les textes, dans ce texte, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, hein, dans notre société, où Dieu disparaît, enfin, ça dépend de quel dieu, hein. Il y en a qui arrivent. Oui. C'est des choses qui nous dépassent quand même.
Oui,
hein.
Oui, oui, oui.
Alors, est-ce qu'il est toujours d'actualité, ce texte de Victor Hugo ?
Alors, oui, à plusieurs niveaux. Déjà, pour moi, c'est une écriture qui est d'une force inouïe. C'est sublimement écrit. C'est en vers, c'est en alexandrin, en l'occurrence. Alors, ça peut faire peur un petit peu, mais c'est... C'est tellement, les mots sont tellement fluides, c'est tellement intelligemment écrit. Ça fait partie de notre patrimoine. On connaît très peu ce texte de Victor Hugo parce que c'est surtout Les Misérables, c'est Notre-Dame de Paris, c'est éventuellement son théâtre, Ruy Blas, Hernani et autres. Et sa poésie pure, on la connaît peut-être moins. Ce texte est un poème de 200 pages, donc c'est 200 pages dans l'alexandrin. C'est assez incroyable. Nous, on a choisi les parties introductives des chapitres de la fin de Satan, qui s'appelle « Hors de la terre 1, 2 et 3 », qui raconte donc la chute de Satan et puis sa supplique à Dieu pour ne pas être le mal auquel on le destine. Ce que ça raconte aujourd'hui, c'est cette tendance qu'on peut avoir au manichéisme aussi, toujours le bien, le mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est décrété être bien, qu'est-ce qui est décrété être mal. Donc ça développe beaucoup là-dessus. Le poème se termine sur cette phrase de Satan qui dit « L'amour me hait ». Et c'est quelque chose qui me parle assez, c'est-à-dire que, à un moment donné, c'est la punition aussi. C'est-à-dire que ce que ça vient raconter, c'est aussi la punition. C'est Dieu qui punit. T'as fauté, bah c'est fini pour toi. Je te fais descendre dans le trou, et il te restera plus qu'à être l'ignoble personnage qui va représenter le mal sur la terre. Et on peut trouver plein d'échos à ça aujourd'hui. Voilà, t'as fauté, c'est fini. Il n'y a pas toujours de seconde chance. Donc voilà, ça vient raconter un peu tout ça aussi. Sublimé, évidemment, alors par ce dialogue, Satan-Dieu. Dieu ne s'exprime pas, hein, c'est uniquement Satan qui parle. Donc sublimé par cette histoire mythique, mythologique, biblique. Et puis par cette écriture, mais on y trouve ces échos là au pouvoir, à cette capacité de dire ça toi ce que t'as fait c'est bien, ça toi ce que t'as fait c'est mal, ce pouvoir qu'on a de décréter que, voilà.
Et je revenais là-dessus par rapport à cette actualité aujourd'hui où on est condamné, pour ainsi dire, à perpétuité, si je comprends bien vos propos. Ça vient depuis quelle époque, cette notion qui avait semblé disparue et qui revient?
Il semblerait que ça vienne de la nuit des temps, justement. Preuve en est qu'il est déjà question de ça ici.
Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ma jeunesse, ce n'était pas une époque où... Enfin, c'était une époque où tout allait bien, l'économie allait bien, il y avait une certaine liberté qui s'amenuise petit à petit aujourd'hui.
Ah oui, énormément.
Ouais. Et comment se fait-il que cette résurgence du bien et du mal surgisse de nouveau? Quels sont les facteurs, d'après toi?
Je ne sais pas si je saurais répondre à ça.
Mais ton sentiment personnel?
Je crois que... Bon, après, il y a des erreurs qui ont été commises par les divers pouvoirs en place qui nous ont un peu étriqués dans nos vies, dans nos obligations au quotidien et autres. Et que... Et que quelque part, j'ai l'impression que parfois, plus on nous domine, et plus on a besoin d'être dominé. Et quelque part, des fois on entend, oh, on va faire la révolution, on va, il faut que ça bouge, il faut revendiquer, il faut... je crois qu'on a tellement été contraint qu'on est incapable de cette énergie. Personne n'y croit vraiment à cette révolution. Je ne dis pas qu'elle n'arrivera jamais. J'espère bien, quelque part, qu'elle arrivera un jour et que les choses vont bouger. Mais on n'est pas si... on n'est pas si revendicatif que ça. On n'est pas si... on n'est pas tellement moteur de nos vies, finalement. On se laisse un petit peu dominer et... Et voilà, et puis il y a la montée aussi de la religion qui prend de plus en plus d'importance. Alors évidemment, on pense au terrorisme, on pense à Daesh, on pense à la religion musulmane tout de suite quand on parle de ça. Mais dans la religion chrétienne aussi, ça se resserre énormément, ça devient de plus en plus... de plus en plus étriqué au niveau de la pensée. Il y a eu un moment où ça s'était beaucoup libéré, même dans le milieu chrétien, le milieu catho, par exemple. Il y a eu un moment où il y avait une ouverture qui semblait venir être un peu plus souple. Et là, il y a quelque chose qui se resserre considérablement. Et bon, c'est très inquiétant, évidemment. Et voilà. Après, je pense que... On nous a installés dans un confort, quelque part, parce que quand même, par rapport à bien d'autres pays du monde, on est quand même dans un certain confort. Et ce confort, il n'est pas désagréable, ce petit confort qui plane comme ça, qui ne bouge pas trop. Et du coup, on nous installe dans ce petit coton, dans ce petit duvet qui nous va bien. Et en même temps, on arrive à nous faire avaler plein de trucs et à nous faire accepter plein de choses. Parce qu'on se dit, bon, ben, si on fout tout en l'air, ouais, d'accord, peut-être que ça va changer, mais le duvet aussi, il va foutre le camp. Donc, est-ce qu'on est prêt à ça? Et je crois pas, en fait. Je crois pas. Donc, du coup, voilà, on se laisse un petit peu faire, quand même.
Voilà, et je reviens sur Victor Hugo.
Je ne sais pas si ça a répondu tout à fait à ta question.
Si, il y a des choses qui sont à prendre. Je revenais sur Victor Hugo qui condamnait le fait de construire une prison au détriment d'écoles. Mmh. Hein, mmh. Voilà, on est dans cette époque-là de nouveau. Donc...
Ouais. C'était quand même un super mec, Victor Hugo. On a une vision un peu... on a souvent une vision un peu conservatrice de Victor Hugo. Ce côté un peu, c'est le père de France, père de la littérature, un truc un peu comme ça.
Fervent aussi de la colonisation. Il y a eu un petit peu de discrétion ces derniers temps, là, j'ai entendu, par rapport à ses positions, par rapport au colonialisme, qui sont, pour lui semblait être une bénédiction pour les peuples dominés.
Il est évident qu'on est à une époque où la pensée à ce niveau-là était quand même très, très à revoir. Et chez lui, comme chez tout le monde, en fait, au 19e, bon, voilà, on était quand même dans un mode de pensée par rapport au colonialisme qui était quand même pas très chouette, quoi. Mais en dehors de ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté contre la peine de mort, qui a beaucoup milité contre la peine de mort, qui a beaucoup écrit là-dessus. Ouais, je trouve que c'est un personnage vraiment très intéressant. Et d'un point de vue littéraire, c'est juste, pour moi, une petite merveille.
Et qui a su aussi donner de l'empathie pour la misère et les misérables.
Les misérables, évidemment. Oui.
Et puis, on passe à Lucie, donc notre ancêtre commun, ouais. Avec sa célèbre représentation de Vénus. Hein. Pourquoi cette Lucie arrive avec cette femme verticale?
Parce que ce texte est un dialogue entre Lucie et une femme de notre siècle. Donc c'est un dialogue du fond des âges, évidemment, il passe au-delà du temps. Et c'est tous les espoirs que met Lucie dans l'humanité, avec ce fait de se mettre debout pour la première fois. Donc c'est cette femme qui va de l'avant, qui va vers l'évolution, voilà, qui n'est pas enfermée dans les carcans de sa communauté, qui est toujours à quatre pattes, qui est toujours dans quelque chose de très conservateur. Et elle essaie d'aller de l'avant. Donc elle met beaucoup d'espoir là-dedans et dans le devenir de l'humanité. Et puis il y a cette réponse. Et en même temps, du fond des âges, elle regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Et elle y met un petit peu son œil critique et avec pas mal d'humour, pointe un petit peu nos travers comme ça et cette évolution qui a été un petit peu chaotique par rapport à ce qu'elle avait imaginé peut-être. Et donc il y a une réponse de cette femme d'aujourd'hui qui, elle, voudrait tout faire pour stopper cette évolution, pour ne pas être les hommes que nous sommes devenus. Et puis il y a une troisième partie qui est la réconciliation des deux et qui amène cette notion d'espoir, de foi dans l'humanité, ce désir de vivre, d'exister, d'être, voilà. Et voilà, c'est en ça que ce texte nous a beaucoup intéressés, plus l'écriture d'André Chédide, qui est aussi une belle écriture, c'est de la poésie contemporaine un petit peu. C'est un roman, mais c'est de la poésie contemporaine.
Et puis, on va aborder ensuite les dates suivantes, hein, du 7 et 14, et on terminera avec celle du 21. Pour le 7, vous proposez Au fil du temps, toujours par toi, Jacques Merle. Et là, ça s'inspire de plusieurs textes, apparemment.
Oui, en fait, j'ai imaginé un parcours composé de trois textes. On sera trois acteurs à lire sur ce temps-là. Un premier texte qui est extrait de Œdipe sur la route de Henri Beauchaud, qui est l'exil d'Œdipe avec sa fille Antigone une fois qu'il a été chassé de Thèbes. Cet exil qui le conduira jusqu'à sa fin, jusqu'au lieu où il s'éteindra. Et sur la route, il rencontre un bandit de grand chemin qui va faire la route avec eux. Et qui, à un moment donné, c'est ce passage qu'on a gardé, va raconter son histoire, l'histoire de son adolescence, qui l'a amené à être ce brigand qu'il est aujourd'hui. Et donc c'est une belle histoire d'amitié, d'amour, amitié amoureuse, on va dire, entre deux adolescents, deux garçons, deux bergers, qui communiquent d'une vallée à une autre, l'un par le corps parce qu'il est danseur, l'autre par... la flûte parce qu'il est musicien, et voilà, en sachant que les deux appartiennent à deux communautés qui vont se faire la guerre et qui vont mettre à mal cette histoire naissante entre eux. Voilà, donc ça c'est le premier texte de ce parcours. C'est une lecture repas, c'est-à-dire qu'on va amener les gens dans trois endroits différents, prendre des collations salées, sucrées, on ira dans un troisième endroit, prendre un café ou un thé, voilà. La deuxième partie, c'est l'Odyssée de Pénélope, de Margaret Atwood, qui est l'auteur, pour ceux qui connaissent, de La Servante Écarlate, et qui a écrit ce texte où Pénélope s'adresse à nous pour nous donner un petit peu sa version de femme qui attend Ulysse, qui est censée revenir de la guerre et qui ne revient jamais, avec cette histoire de linceul qu'elle tisse et détisse. Elle détisse la nuit ce qu'elle tisse le jour, pour repousser les prétendants qui voudraient prendre la place d'Ulysse, justement. Donc voilà, c'est son regard de femme sur la guerre, sur ce mari qui ne revient jamais, et sur son attente, et sur sa vie vraiment, sur comment elle vit tout ça, enfermée dans ses appartements, avec ce linceul qu'elle tisse et détisse. Ça, ce sera lu par Nathalie Vidal, qui est ma complice depuis de nombreuses années dans le festival. Et puis le troisième texte, ça sera le texte du café, qui est un texte de Marguerite Yourcenar, qui s'appelle « Clytemnestre ou le crime », et qui est un plaidoyer de Clytemnestre qui explique son geste et pourquoi elle a tué son mari Agamemnon. Donc c'est un récit de femme meurtrie, de femme abandonnée. On est beaucoup sur ces deux textes, sur des femmes abandonnées par leur mari qui partent à la guerre. En fait. Voilà.
Et puis, le point commun, c'est le grec classique, les textes où les mythes en sont issus.
Oui.
J'en parlais l'autre jour. La représentation féminine dans les textes classiques grecs n'était pas très valorisée.
La représentation féminine ?
Oui.
Non, c'est vrai, pas tellement. Pas tellement. C'était un peu les dernières roues du carrosse, les femmes là-dedans. Alors, et en même temps, ce sont des femmes fortes. Ce sont des femmes qui ont beaucoup renversé des situations ou qui ont été à l'origine. Alors c'est vrai que c'est pas très reluisant non plus. Elles ont été à l'origine de certaines guerres aussi, la guerre de Troie, Hélène. Il en est question d'ailleurs dans le texte de Pénélope. Mais tout ça est écrit avec beaucoup d'humour. C'est Hélène la belle, c'est Hélène très sarcastique, c'est Hélène avec un petit côté garce comme ça qu'elle dépeint. Et donc ça donne un regard un petit peu décalé sur sur justement ce qu'on peut connaître de ces mythes grecs.
Alors ça sera donc proposé à Livron.
Oui.
Livron-Chabriant. Hein.
Oui, à Livron-Chabriant. Et ça sera le cas à Miremonde le 21 aussi, puisque les deux lectures qu'on propose en journée se refont les trois jours. Aux mêmes heures.
Toujours en fin d'après-midi.
Non, c'est à 13h ça.
C'est à 13h.
C'est une déjeuner lecture à 13h.
Ah d'accord, ouais. Oui, pour moi. Et donc, une reconstitution en plein air hein, pour certains textes hein, par rapport aux premiers cités.
Oui.
Pareil, hein, pas besoin de réservation pour les repas.
Si, il est vraiment très important. Alors sur les journées d'avril, sur justement les trois journées d'avril, on est sur des espaces non dédiés. On s'amuse à aller chercher des espaces improbables, des espaces insolites, dont la configuration, l'espace en soi, les murs, les plafonds, le sol, sont un écrin pour le spectacle ou la lecture qui va être proposée dedans. Donc on est des fois dans des endroits tout petits. Donc il est vraiment important de réserver. Ça nous est arrivé quelques fois de refuser du monde, rarement, mais malgré tout, bon, c'est bien. Et puis pour le repas, c'est indispensable. Donc cette lecture-là de 13h, ce déjeuner lecture, il faut vraiment réserver, oui.
Et puis on va continuer hein, avec le quatrième mur hein, de Sorge Chalandon. Mmh. Est-ce qu'on peut présenter un peu cet auteur
Sorge Chalandon est un journaliste, grand reporter.
Qui œuvre au Canard Enchaîné, je crois.
Oui, entre autres. Et qui de cette expérience de grand reporter, il a écrit des romans. C'est pas le seul qu'il a écrit. Il en a écrit sur la guerre d'Irlande, un texte qui s'appelle Mon traître, qui est magnifique. Et là, on est en pleine guerre du Liban en 1982. Il y a une notion assez importante pour moi. Chez Chalandon, en tout cas, c'est ce que j'y lis, c'est la notion de sacrifice pour une cause. Et ce sont souvent des personnages qui vivent dans un monde relativement doré, en tout cas qui ne sont pas dans des pays en état de guerre, ou qui sont souvent militants, mais militants en Occident. Et puis qui, par un certain concours de circonstances, vont se retrouver plongés dans des états en guerre et vont prendre fait et cause pour ces guerres-là. Et ils vont faire leur des guerres qui ne sont pas les leurs. Et c'est ce que souvent leur font remarquer les personnages qu'ils rencontrent dans ces pays en guerre, à lui faire remarquer que c'est bien d'être là, que c'est bien de soutenir, mais que ça n'est pas sa guerre et que ça ne sera jamais la sienne. Et malgré tout, poussé par une certaine culpabilité de vivre bien ailleurs, ces personnages-là vont sacrifier leur vie pour défendre des idées, pour défendre des communautés qui se font massacrer, voilà.
Alors, ça se présentera sous forme de lecture hein, sur scène.
Oui.
Et avec Françoise Sourd et Nathalie Vidal.
Oui.
On pourrait peut-être parler aussi de Nathalie Vidal
ouais.
pour commencer.
Oui.
Vieille complice, comme vous disiez ouais. tout à l'heure.
Ouais.
Quel est son parcours ?
Nathalie Vidal, elle est toulousaine. Elle a eu la chance de travailler avec des grands metteurs en scène sur Paris, sur Toulouse. Et puis, on a été embarqués ensemble dans une aventure aux côtés d'un metteur en scène qui s'appelle Christian Esnay, sur Paris. On a fait presque 10 ans de troupe avec lui. On était une équipe de 10 acteurs, on était assez nombreux. Et voilà, le jour où, où cette équipe s'est un peu... pas déchirée, mais c'est séparé, parce qu'à un moment donné, l'aventure prend fin. Elle est un petit peu au bout de l'aventure commune. Bien qu'elle habite Toulouse, je suis allé la chercher quand j'ai commencé à faire des choses dans la région ici. Et je suis très content de l'avoir avec moi. Donc depuis 2010, depuis presque le début du festival, elle vient tous les ans me prêter main forte pour ses lectures, pour les spectacles. Et c'est une collaboratrice artistique, c'est plus qu'une actrice dans le festival.
Et puis Françoise Sour, pareil, oui. Vous
Ce
travaillez...
sera la première fois qu'on travaille ensemble. Première fois, Françoise Sour était une comédienne de la compagnie d'Élise Dada pendant des années. Ça, c'est en train de se terminer aujourd'hui pour elle, avec eux. Et voilà, ça, on s'est rencontrés. Elle est venue voir notre travail. Je suis allé voir le sien parce qu'elle a créé aussi un spectacle qu'on va programmer aussi dans le festival d'ailleurs, qui s'appelle M'amuse. Et voilà, j'avais envie de lui proposer d'intégrer notre équipe et je suis très content qu'elle soit là.
Et là, on va l'aborder justement, M'amuse. Donc là, c'est une création pure de Françoise Sour,
oui.
Et jouée et interprétée par elle.
Donc, oui.
Ça parle de quoi précisément? Donc on peut présenter un peu ce qu'est Muse, M'amuse.
Oui. M'amuse, c'est un spectacle qu'elle a écrit suite à des interventions qu'elle a fait en hôpital psychiatrique à l'hôpital Sainte-Marie à Privas. Et puis après dans d'autres, mais l'aventure a commencé là, et de toute cette humanité parfois exacerbée, ces sentiments, parfois l'émotion exacerbée de ces personnes qui lui sont revenues comme ça un peu en pleine figure, elle a écrit ce spectacle, alors qui n'est pas un spectacle qui traite vraiment de la psychiatrie, mais... elle s'est inspirée de son aventure avec ses patients. Et elle a écrit ce spectacle qui est un personnage, une artiste qui parle à sa muse. Alors peut-être que la folie, elle est un peu exprimée là-dedans, sur la présence de cette muse qu'elle voit et à laquelle elle parle. Donc c'est la recherche de l'inspiration. Quelle est ma place d'artiste? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Donc c'est un peu face à la page blanche. Qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je crée et pourquoi, etc. Elle y fait énormément allusion aussi à des tirades de textes classiques où de temps en temps elle se met à déclamer certaines phrases ou certaines répliques de pièces comme Phèdre, comme Cyrano de Bergerac, il y en a plein. Donc voilà, ça s'inscrivait bien aussi dans la thématique. Tout en étant un spectacle très singulier, qui est drôle, qui est touchant. Françoise Sour est une très belle comédienne. Et voilà, ça me faisait très très plaisir qu'elle vienne jouer dans notre manifestation.
Ouais. J'ignore si tu as déjà vu son spectacle.
Oui, je l'ai vu.
Il y a une communication uniquement avec M'amuse, ou alors il y a aussi une adresse au public?
Elle s'adresse au public aussi, elle s'adresse au public. Et d'autant que nous, dans notre configuration, en étant encore une fois dans des espaces non dédiés, il n'y a pas un espace scénique et un espace public, on est un peu tous ensemble dans le même espace. On s'amuse d'ailleurs aussi avec la configuration, à mettre le public ou les acteurs au milieu du public. Bon, voilà. Donc ça nécessite une adresse automatiquement. On ne peut pas oublier un public qui est là. Et puis justement, nous, on n'est pas très quatrième mur. On ne joue pas trop ce fameux quatrième mur. Donc non, on est en adresse publique beaucoup. Et Françoise l'est aussi dans son spectacle M'amuse.
Le 21 avril, ça va clore ces représentations, ouais. Avec un triptyque proposé donc...
À Livron, le 7, on donne rendez-vous dans un parc qui est sur la Nationale 7, le parc du Bosquet. À Chabrian, on donne rendez-vous au Café Bibliothèque, mais après on amène les gens, pour tous les spectacles, toutes les lectures, on amène les gens dans d'autres endroits. Les rendez-vous sont le parc du Bosquet à Livron, le café bibliothèque à Chabrian, mais après on emmène les gens ailleurs pour chaque spectacle, il se déroule dans des lieux différents. Mais ça, c'est tenu secret, c'est un petit peu la surprise du festival. Les gens ont un petit peu l'habitude, on va les amener quelque part, ils ne savent pas où. Et à Mirmande, le rendez-vous est à la salle des fêtes, qui est dans l'enceinte de la mairie, donc au cœur du village. Et on amènera, là encore une fois, les gens ailleurs pour... Voilà, la salle des fêtes est l'endroit, par contre, où on se restaure, où on boit un coup, où on bouquine, parce qu'il y a un stand de librairie, la billetterie, etc. Et voilà, donc on ira encore ailleurs pour ce triptyque.
Alors ce triptyque qui s'intitule Horace, Médée Matériau et Hamlet Machine. Mmh. On peut l'expliquer peut-être ?
Oui, en fait c'est l'auteur allemand Heiner Müller qui a repris, c'est très caractéristique de son écriture, il a beaucoup fait ça dans son écriture. Il s'est emparé de mythes du théâtre classique ou antique et il en a fait des condensés de mythes. Il a condensé les pièces d'origine pour en faire un texte tout autre qui part de l'histoire de ces personnages, que ce soit Horace, que ce soit Médée, que ce soit Hamlet. Et lui, il y a mis des résonances. C'était un auteur de l'Allemagne de l'Est à l'époque, donc de RDA. Et c'est dans les années 70 qu'il a écrit ces textes-là. C'est assez vieux, finalement, maintenant. C'est plus si contemporain que ça. Et en même temps, ça aurait été écrit il y a 2-3 ans. Ça ne surprendrait personne. C'est une écriture qui est totalement intemporelle, vraiment. Donc voilà. Et donc, du coup, il lui a donné... Alors, Horace, c'est resté Horace, mais c'est Médée Matériau. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il a pris le matériau de base... Et il en a fait une autre pièce, pareil pour Hamlet Machine, où justement c'est cette machine du pouvoir qui broie Hamlet et le rend fou. Et pour échapper à ce pouvoir, justement, il joue la folie pour qu'on lui foute la paix, en gros. Et donc voilà, d'où ce Hamlet Machine. Et ça, c'est notre petit bébé. Ça fait longtemps qu'on travaille sur cet auteur.
Et alors, sur ce spectacle, en fait, un triptyque, ça se présentera sur quelle forme, donc, à cette soirée ?
C'est un petit peu complexe à expliquer. Comme ça, on a un triple espace scénique. On ne va pas dire espace scénique parce qu'il n'y a pas de scène. Espace de jeu. Il y a trois espaces de jeu avec le public qui est placé à des endroits très précis au cœur de ce dispositif. Donc, on est un petit peu entouré par les espaces, le public est entouré par les espaces de jeu. On est sur des tabourets, enfin le public est sur des tabourets et se tourne sur un espace ou l'autre en fonction de où ça joue. On est sur un théâtre de grande proximité parce qu'on est vraiment tout près des gens. Vraiment, parfois, on joue à un mètre, on est à un mètre d'eux, vraiment. Et moi, j'aime cette proximité-là, j'aime ce rapport-là au public, de vraiment voir les gens, pouvoir s'adresser à eux en les regardant dans les yeux, pas trop longtemps non plus. C'est bien de balayer parce qu'on est très vite mal à l'aise quand on est public et qu'on a un acteur qui vous regarde vraiment. On préfère quand l'acteur regarde un petit peu au-dessus. C'est vrai que nous, on n'est pas trop dans ce travail-là. Et on aime bien travailler à la relation entre ce va-et-vient qu'il y a entre le public et les acteurs, et cet échange vraiment, par les regards, par les silences, le moindre mouvement du public prend sens du coup. La manière dont on respire, la manière dont on regarde, la manière dont on tourne la tête, dont on bouge les jambes, tout ça fait sens et rien n'est anodin. Tout est véhiculé par ce qui se passe là, à cet instant T, qui est un moment vraiment unique. Bien plus que quand on est sur une scène et que le public est loin, plongé dans le noir. C'est un autre travail, c'est une autre manière de faire du théâtre, je crois. On n'est pas les seuls, hein, loin de là, mais on aime bien défendre ça.
Ces choix de texte sont de ta part ou alors des comédiens qui ont participé, hein. On peut reparler donc de Frédéric Espitalier,
oui.
Qui est une des comédiennes, Nathalie Vidal et toi-même. Ces choix de texte ont été décidés par qui ?
C'est une longue histoire. Ça a commencé en 2006. J'avais une amie comédienne qui avait travaillé sur Médée Matériau, mis en scène par une metteur en scène autrichienne, qui s'appelait Marisa Grovald. Et cette amie comédienne, qui n'est plus comédienne aujourd'hui, qui s'appelait Marie Delafont, j'étais allé voir son spectacle et elle m'avait dit « Oh, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble, on pourrait peut-être rajouter un texte à m'aider, trouver un texte qui se marierait avec pour faire un spectacle un peu plus long parce que le texte est assez court. » Et donc on avait lu beaucoup de choses, voilà, j'étais allé dans des médiathèques pour trouver un texte en monologue masculin pour rajouter à ce monologue féminin qui était des matériaux. Et puis après avoir lu maintes et maintes choses de différents auteurs, on a fini par se pencher sur l'auteur lui-même, parce qu'on était parti au départ sur d'autres auteurs qui pouvaient faire écho à Einar Müller au niveau de l'écriture. Et puis on est allé voir sur les autres textes d'Einar Müller et je suis tombé sur Hamlet Machine. Et quand je l'ai lu, j'ai su que, voilà, que j'avais envie de travailler ce texte-là. Donc on a fait un premier laboratoire avec cette comédienne et puis Olivier Brémond qui est le scénographe du spectacle. Et à Troyes, on a fait un travail qui a donné lieu à une sortie de travail. On a fait deux petites représentations derrière. Donc ça, c'était en 2006, c'était il y a 11 ans. Ensuite, bon, la collaboration s'est arrêtée avec la comédienne qui est partie sur autre chose. Et puis, voilà. Et puis j'étais pas arrivé vraiment à ce que j'aurais voulu avec ce texte. Il manquait quelque chose, il y avait quelque chose qui n'était pas abouti pour moi dans le travail sur l'écriture, etc. Et donc c'est resté en plan pendant 4 ans. Et puis en 2010, j'ai voulu reprendre Hamlet Machine tout seul. Et j'ai demandé à Nathalie Vidal de reprendre la mise en scène qu'on avait fait au départ, ce travail de base de laboratoire qu'on avait fait en 2006. Et elle m'a dirigé sur ce spectacle, sur ce texte. Et on a créé Hamlet Machine tout seul donc en 2010. Ensuite, en 2012, j'ai mis en scène Nathalie Vidal dans mes dématériaux et c'est venu faire diptyque avec Hamlet Machine. Pardon. Et puis en 2016, beaucoup plus récemment, j'ai monté Horace avec la comédienne Frédérique Espitalier. Et c'est venu faire triptyque avec les deux autres. Et donc, c'est le spectacle que c'est aujourd'hui. Et l'année prochaine, sur la saison 2019-2020, on créera un quatrième texte. Qui s'appelle Titus Anatomie, d'après Titus Andronicus de Shakespeare, qui viendra un peu clore notre travail sur Einar Müller, et donc ça deviendra polyptique avec ce quatrième texte qu'on viendra rajouter, mais tout ça sera un seul spectacle encore.
Pour mettre en lumière ce spectacle et puis pour bien discerner les textes, il y a le travail de Christophe Payot aussi.
Alors Christophe Payot a travaillé avec nous, oui, sur le festival l'année dernière. Il a collaboré à la création Lumière qui avait été déjà faite un petit peu en amont. Il est venu y amener sa touche. Il ne travaillera pas avec nous cette année, mais il a amené sa patte, oui, à la création Lumière de ce triptyque.
Tout à l'heure, tu disais que Einar Müller a exercé un condensé, s'est exercé sur un condensé de ses textes proposés. Est-ce qu'il a su y en garder la puissance ?
Ah oui, c'est juste incroyable. C'est d'une puissance folle. Il y parle aussi beaucoup, c'est-à-dire que lui transpose beaucoup ce que racontent ses pièces, il le transpose dans son époque. Il y parle beaucoup de la révolution à Budapest, du soulèvement à Budapest. Dans Hamlet Machine, il y a beaucoup question de ça aussi. Cette rébellion contre le pouvoir et puis aussi cet échec de la révolution, ce constat d'échec. Il fait un énorme constat d'échec de la révolution, en tout cas de cette révolution-là. Et oui, ça garde énormément. Oui, c'est très très puissant. C'est peut-être même encore. Alors, moi j'adore le Hamlet de Shakespeare, mais là il y a quelque chose de tellement dense. C'est assez vertigineux comme texte.
La dernière question, ouais. Comment a-t-il pu traduire cette déception d'une révolution manquée ou ratée ?
Il y a tout un passage dans Hamlet Machine. Alors Hamlet Machine n'est pas tout à fait un monologue, mais nous on en a fait un monologue. Il y a Ophélie aussi qui est présente normalement. Mais c'est le même acteur, moi en l'occurrence, qui joue à la fois Hamlet et Ophélie. Il y a tout un passage au milieu qui sort un petit peu de la pure histoire d'Hamlet. Où le comédien qui joue Hamlet, parce qu'il est question de ça aussi dans Hamlet Machine, c'est un comédien qui joue Hamlet. D'ailleurs, le texte commence en disant « J'étais Hamlet ». Voilà. Donc c'est le comédien qui joue Hamlet. Et donc il joue, il raconte cette histoire, son rapport à sa mère, au pouvoir, son père, ses désillusions, sa folie. Et puis à un moment donné, il dit « Non, stop, j'arrête là. On arrête de jouer, moi je vais vous dire vraiment de quoi j'ai envie de parler. Ce que j'ai envie de vous dire avec tout ça. » Et là arrive ce grand monologue sur la révolution à Budapest, sur les chars, sur les soldats, sur les statues qu'on fait, qu'on démolit, sur les pauvres, sur l'oppression, sur la misère, voilà. Donc on sort du mythe, même si, et là c'est le comédien qui joue Hamlet qui raconte ça. Et c'est quelque part aussi la parole de l'auteur, c'est l'auteur qui parle réellement.
Eh bien, Jacques, juste une dernière chose. Oui. Donc, tous ces renseignements, on peut les trouver sur votre site internet.
Oui, hein. Oui, c'est www.museerante. Il ne faut pas oublier les deux E, deux R au milieu. MUS2E2RANTE.com. Et puis, on y trouve donc, sur ce site tout le programme du festival. Pour réserver par mail, par téléphone, effectivement un téléphone, une adresse mail, on peut réserver aussi directement par le site, il y a un formulaire de réservation, voilà, il y a plein de possibilités pour réserver, vous ne pouvez pas le louper.
Vous travaillez toujours avec votre propre graphiste ?
Oui, absolument, c'est Caractère Communication, l'équipe de Caractère Communication, ils sont à Montélimar, et ils font les affiches du festival depuis 2011, et voilà, j'aime beaucoup leur travail sur les visuels du festival chaque année.
Eh bien Jacques, merci d'être venu nous parler donc de ce voyage au cœur de l'homme,
merci.
Qui se déroulera donc du 21 au mars au 21 avril. Vous pourrez vous renseigner sur le site internet. Eh bien, bonne soirée.
Merci, bonne soirée à vous.
Interview.
Merci, au revoir.
Okay, the bird.